Session de philosophie sur la liberté par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 29 août 1988, troisième conférence.
Je vous ai amené exprès ce gros livre. Les philosophes célèbres. Comme on donne pour chaque philosophe des gravures célèbres et habituelles, ça vous intéressera de pouvoir les regarder. Je les laisserai ici, ne l'emmenez pas. C'est un livre qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Le tirage était très limité, comme j'ai dû en faire le compte-rendu. J'ai pu comme ça le prendre. Et c'est intéressant de regarder la manière dont, de fait, Merleau-Ponty, puisque c'est lui qui a ponctué, c'est pas lui qui a fait tous les articles, hein. C'est lui qui a eu, si vous voulez, la fonction de hiérarchiser un peu tous les divers auteurs. Alors il prend l'Orient et la philosophie, les fondateurs pour notre philosophie occidentale, et les fondateurs, c'est la Grèce, le christianisme et la philosophie, le grand rationalisme qui commence à Francis Bacon, Descartes, Spinoza, la découverte de la subjectivité, alors qui nous conduit de Montaigne à Kierkegaard, la découverte de l'histoire, Schelling, Hegel, Auguste Comte, Marx, Nietzsche, l'existence et la dialectique. Vous voyez, c'est bien, ça me semble un aspect intéressant, c'est pas du tout fou. Mais peut-être ce que nous disons, ce que nous avions vu ce matin, me semble, pour ce qui nous intéresse, quelque chose de plus adéquat. Je vous le laisse quand même pour que vous puissiez regarder le buste bien connu d'Aristote. C'est quand même intéressant, puisque l'art doit nous aider à comprendre la liberté. Le buste de Platon. Le buste de Socrate. Bon, quelques questions et puis on va continuer. Pourquoi fonder la philosophie sur l'expérience? Ça, c'est une question extrêmement importante et très fondamentale. Alors, si je regarde l'histoire de la philosophie, je vois que où la philosophie se fonde sur l'intuition, la révélation, l'aspect de l'inspiration, Platon, l'expérience interne ou externe. La conscience, c'est l'expérience interne. Cherchez, voyez, regardez ça, quand vous aurez fait l'analyse de tous les points de départ de ces philosophes, vous comprendrez qu'il y a quelques points de départ, il n'y a pas des quantités à l'infini. Et ce qui est très curieux, c'est que pas tous les philosophes précisent le point de départ de leur recherche. C'est dommage. Il y a un livre qui est bien fait, qui est très intéressant. Le point de départ de la métaphysique du père Maréchal. Le père Maréchal est un père jésuite qui a joué de son temps un rôle important pour le renouveau thomiste Et le point de départ de la métaphysique dans le livre de Marshall, c'est trois volumes. Intéressant à voir comment il voit les points de départ. Et quelquefois, on doit les découvrir. Ils ne sont pas dit explicitement. Il y a des philosophes qui disent explicitement le point de départ, il y en a qui ne le disent pas. Alors, quand on fait toute cette étude-là, je l'ai faite, hein, parce que moi, ça m'intéresse de savoir quel est le point de départ de la pensée. Vous voyez, un savant sait que telle expérience lui a posé telle hypothèse. Et à partir de là, il s'est mis à chercher. C'est important de savoir quel est le point de départ de la philosophie. Je crois que tous les philosophes sont d'accord pour dire que la philosophie doit être une connaissance ou globale qui regarde le tout. Une connaissance exhaustive qui englobe tout, englobante, disperse. Une connaissance qui va très loin dans la profondeur, dans l'ultime recherche, sagesse. La philosophie est sagesse. Elle aboutit à la sagesse. Or, la sagesse, c'est la connaissance des choses ultimes, dernières. On ne peut pas aller au-delà. Il n'y a pas une métaphilosophie. Comme il y a une métapsychologie. Vous voyez, je crois que c'est important de voir que le philosophe est conscient que la philosophie représente un tout. Pas nécessairement un système, mais qu'elle enveloppe tout. Il faut donc que la philosophie et son point de départ, qui soit le point de départ de la connaissance humaine. Autrement, si le point de départ de la philosophie n'est pas le point de départ de la connaissance humaine, certaines connaissances échapperont à la philosophie. Je m'explique, vous allez comprendre, j'espère. L'expérience est ou interne ou externe. L'expérience interne, c'est la conscience que vous avez eue, que vous avez. Vous voyez, vous venez d'avoir un accident d'auto, ça arrive, même à des gens très bien. Ils vivent de cet accident. Ils en ont eu conscience. Il y a eu un choc terrible. Puis après, plus rien du tout. J'ai perdu la tête. J'ai perdu conscience. Il y a eu un choc. Et c'est vrai, ça. C'est très curieux. Un accident, c'est un choc. Alors, on peut très bien rester conscient jusqu'au bout, si le choc n'a pas été trop fort. Mais, conscience, il y a quelqu'un qui regarde l'accident. Il est spectateur. On veut en faire un témoin. Hein? C'est pour ça qu'ordinairement, ils s'en vont à toute vitesse. Parce qu'ils ne veulent pas être témoins. Mais, on est spectateur. Quand vous êtes spectateur, c'est l'expérience externe. C'est vos sens, vous voyez. C'est la vue. Vous avez vu. Vous avez vu, je me souviens, pas très longtemps, cet accident terrible que j'ai vu. Une moto qu'on voyait arriver, qui a dépassé un gros camion, et à ce moment-là, arrivait un autre camion. Nous étions juste derrière l'autre camion. C'était le soir, donc c'était visible, on voyait bien. C'était pas s'il a survécu, j'en sais rien, j'ai pas pu savoir. Un choc énorme, c'est, surtout en moto. Vous voyez, on est spectateur, on n'est pas touché. Et c'est les sens externes. Alors vous allez me dire, mais ce qui est important, c'est celui qui subit. Ah, attention. Point de vue de l'objectivité, est-ce que c'est celui qui a subi ou celui qui a vu ? Celui qui a vu, ben, il a vu. C'est comme quand vous prenez une photographie. Celui qui subit, ben, vous ne savez pas comment il a subi. Vous ne savez pas, il a pu être aveuglé, plus rien voir. C'est ce que l'a dit le pauvre type qui était sur la moto, il parlait encore un tout petit peu. Il a dit, j'étais aveuglé. J'étais aveuglé. Donc, il a une conscience, mais d'un choc. Et pas de l'accident. Alors, c'est là où il y a une question très importante. Est-ce que toute expérience interne n'est-elle pas le fruit d'une expérience externe ? Je prends un autre exemple. L'expérience interne, c'est la grande philosophie de Saint Augustin. Puisqu'on fêtait Saint Augustin. Hier, on le salue aujourd'hui. Saint Augustin commence toute sa philosophie par l'amour. Amour, vérité. L'amour, c'est quelque chose que vous ressentez en vous. On a conscience d'aimer. C'est une expérience interne. C'est même l'expérience la plus interne qui soit, je crois, quand on aime profondément. La vérité, c'est aussi une expérience interne de la connaissance, connaissance parfaite et vraie. Alors, j'aime quelqu'un que j'ai vu. J'aime quelqu'un qui m'a parlé. J'aime quelqu'un que j'ai rencontré. Donc, avant l'amour, il y a eu une rencontre personnelle. Donc, l'amour est le fruit d'une rencontre personnelle. Je rencontre beaucoup de personnes, heureusement que je ne les aime pas toutes. C'est affolant, vous voyez, toutes les étincelles qui partiraient. Mais pourquoi telle personne que je rencontre suscite en moi un amour ? Expliquez ça. Les philosophes ont voulu expliquer ça en disant des atomes crochus, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient dire. N'est-ce pas ? Pourquoi telle personne que je rencontre, je l'aime ? Et j'en compte des quantités. Vous voyez, avant l'amour, il y a une expérience externe. Cette expérience externe n'exclut pas l'expérience interne, mais elle est plus fondamentale. Toute expérience interne présuppose une expérience externe. Oui, j'affirme ça après une longue réflexion critique. Réfléchissez, c'est très important. Parce que ça fait comprendre que je ne peux pas fonder une philosophie sur l'expérience interne. En plus de ça, si je fonde ma philosophie sur mon expérience interne, j'aurai une philosophie extrêmement subjective. Parce que je pars de l'amour, mais c'est mon amour. Et donc elle sera très personnelle et très subjective. Ce n'est que par l'expérience externe que je rejoins une objectivité. Oui. Et c'est par là qu'il pourra y avoir une connaissance objective. Mais quand je dis que la philosophie se fonde sur l'expérience externe, ça n'exclut pas l'expérience interne. Les deux, très souvent, vont ensemble. Bon, je prends maintenant un autre exemple. Ma philosophie commence par l'inspiration. Topfer, le sixième sens. Le sixième sens, l'inspiration. C'est vrai, c'est bien ce qu'il dit. On peut regarder une rose, certains diront « Oh, quelle rose magnifique !» Je me souviens, premier voyage en Grèce, je faisais avec un sculpteur de Genève. Enfin, j'étais dans une île. Puis on voit un coup de coude dans la poitrine. Il me dit « Regardez cette déesse !» Je vois une déesse, évidemment. Elle avait des yeux grecs, vous comprenez. Alors évidemment, le sculpteur, oh, c'était extraordinaire. Regardez cette déesse, c'était magnifique. Mais moi, je la regardais pas avec le même enthousiasme que lui. Et au fond, quand on voyage avec un artiste, il sent les choses que beaucoup d'autres ne sentent pas. Sixième sens, l'expérience externe éveille une inspiration. Ça éveille une inspiration. C'est très vrai. Il y a des gens qui sont inspirés, il y a des gens qui ne le sont pas. On aura beau lui montrer des choses merveilleuses, étonnantes. Regardons, oui. Il dit, oh tiens, c'est à quelle date que ça a été peint, ça? Comment a-t-il fait ça? Oui, tout de suite. La technique. Et puis c'est ça qui l'intéresse. C'est pas... C'est très curieux, l'inspiration. Alors, on dira, il faut commencer la philosophie. Non. L'art commence par l'inspiration, pas la philosophie. Le philosophe s'intéresse à l'inspiration. C'est bien évident. Ça fait partie de la philosophie. Une philosophie qui ne s'intéresse pas à l'inspiration, il y a quelque chose qui lui manque. La philosophie de l'art est quelque chose de très radical. On le verra. Mais je ne peux pas commencer une philosophie par l'inspiration. Pourquoi? Parce que l'inspiration, tout le monde ne l'a pas. Or, je fais la philosophie de l'homme. Vous voyez, Topfer peut commencer le sixième sens, mais je ne pourrais pas commencer ma philosophie par le sixième sens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas, comme il le dit si bien. Et alors, il considère que tout celui qui parle selon le sixième sens, complètement dans une autre planète. L'inspiration. Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Platon dit, les musiciens, les poètes, les mystiques, les philosophes ont quelque chose de semblable. Sont des gens inspirés. Et Platon dit, ils ont des ailes. Ils ont des ailes. Mais l'inspiration, ça existe l'inspiration. C'est bien évident. Mais l'inspiration, c'est pas premier. C'est pas premier. Vous n'allez pas rester assis sur une chaise en disant, j'attends d'être inspiré. Si vous faites ça, vous ne serez jamais inspiré. C'est bien ça. Jamais. L'inspiration, elle provient de quoi? De mes expériences. L'artiste a besoin de changer de lieu, de voir autre chose. Parce que ça s'use. Les vieux pneus, ça dérape. Ça n'adhère plus au réel. On a besoin d'expérience. On a besoin du travail. c'est quelquefois en travaillant, un peu bêtement, que l'inspiration vient. Oui, quand on doit écrire un article, il faut un peu d'inspiration pour écrire un article, de philosophie ou de théologie, puis on copie. Regardez, on prend une phrase dans un bouquin, une autre phrase dans un bouquin. Comme disait un professeur de philosophie de Fribourg, que je ne nomme pas, le résumé de 100 livres, c'est une thèse géniale. Oui, donc c'est la négation de l'inspiration. Le résumé de 100 livres. Oui, c'est indigeste. Très bien. C'est pas génial du tout. C'est pas génial du tout. On ramasse les miettes. Par contre, ça peut se faire avec beaucoup d'astuces. Comme ça peut se faire de façon très bête. Mais c'est pas l'inspiration. Mais quand je dis saint Thomas, trois sources. Saint Augustin, Aristote, Denis. Oui, mais je n'ai rien dit de saint Thomas. Un artiste a des sources. Mais ce qui lui est propre relève de son inspiration. L'inspiration n'est pas première. Elle présuppose des quantités. Un climat. Il y a tout un climat. Tout un milieu. Les artistes sont inspirés dans certains lieux et pas dans d'autres. Je voyais l'autre jour un danseur que je connais bien, c'était à Montpellier. Il m'a raconté, c'était très intéressant, comment une fois en entrant dans une petite église désaffectée, petite église romane, quelqu'un qui ne pratique plus depuis des années, hein, il y a au moins 20 ans. C'est la danse, pour lui. Il faisait des mathématiques, il est passé des mathématiques à la danse. Sa mère a beaucoup pleuré à ce moment-là, mais il est passé à la danse. Et c'est la danse qui pour lui est tout. Or, subitement, il passe devant cette église, et il y entre. Puis il était comme inspiré. Il s'est mis à danser. Il dit, j'ai jamais dansé de ma vie comme ça. Un lieu. Pourquoi? C'est mystérieux, hein, c'est très mystérieux. Tout un climat. Mais l'inspiration existe, c'est quelque chose de premier pour l'artiste, mais pas pour le philosophe. Pourquoi? Parce que l'artiste, comme artiste, il ne veut pas décrire ce que c'est que l'homme. Il décrit un aspect de sa vie d'homme. L'homme n'est pas exclu d'artiste. Mais ce n'est pas l'homme qui cherche. Ça, c'est le philosophe. Et le philosophe voit que l'inspiration, c'est jamais quelque chose de premier. Puis c'est toujours un peu gratuite. Toujours un peu gratuite. Vous ne pouvez pas presser sur le bouton. Aujourd'hui, je vais t'inspirer à 9h30, puisque j'ai un cours. Il suffit d'avoir un cours pour ne plus être inspiré. Et l'inspiration, c'est très curieux, c'est fugace. C'est merveilleux. C'est quelque chose qui... Inspiration, intuition. Toute inspiration implique une intuition. Toute inspiration. Alors, est-ce que je commence ma philosophie par l'intuition? Maritain, l'intuition de l'être. Pour lui, c'est ça, l'intuition de l'être. Si on n'a pas l'intuition de l'être, pas la peine. Donc, j'aurais dû mettre sur les invitations, session, tous ceux qui ont l'inspiration de l'être. Et alors, en arrivant, on pourrait passer sur une bascule. Avez-vous l'intuition de l'être? Avez-vous eu l'intuition de l'être? Je ne sais pas. Et moi non plus. On ne sait pas. Parce que à l'intuition n'est jamais quelque chose de premier. Ça présuppose des quantités d'expériences. L'intuition, c'est aussi quelque chose de très particulier et de gratuite. Il y a des intuitions. Et je veux bien dire que un grand philosophe a toujours des intuitions. Ça est sûr. Ça lui permet de bondir. C'est net. Hein. Mais il faut après que toutes ces intuitions, il puisse les vérifier. Parce que, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est purement imaginatif? J'en sais rien. Mais l'intuition permet de poser des hypothèses de recherche. Et c'est très important d'avoir des hypothèses de recherche. Si je n'ai pas d'hypothèse de recherche, je n'avancerai pas. Il y a des intuitions mathématiques. Le mathématicien est un homme d'intuition. C'est-à-dire, il y a deux types de mathématiciens. Il y a les mathématiciens qui sont des gens d'intuition et les mathématiciens de la logique. C'est très curieux. Mais il y a une intuition mathématique. Il y a des intuitions critiques. Il y a des intuitions esthétiques qui relèvent sur l'inspiration. Mais c'est second. Basé sur la révélation, je ne peux pas. La révélation, où elle est divine. Une inspiration divine présuppose la foi. Ma philosophie ne repose pas sur la foi. Y a-t-il une philosophie chrétienne? C'est un problème. Vous comprenez, pour répondre à la question, il faut savoir ce que c'est que la philosophie. Avant de savoir si elle est chrétienne. La foi fait de moi un chrétien. Mais la foi ne me fait pas de moi un philosophe. Donc, la philosophie ne repose pas sur la révélation. Bien que la philosophie ne s'oppose pas à la révélation, il peut y avoir des liens. Alors, voyez, si vous essayez de faire une petite enquête, vous verrez que seule l'expérience externe, l'alliance de mon intelligence et des sens externes. Seule l'expérience externe est bien l'expérience radicale, le point de départ de toute ma connaissance. Je peux avoir des intuitions, c'est très vrai. Je peux avoir des révélations, c'est très vrai, mais c'est jamais premier. Regardez le gosse. Les expériences du gosse, c'est des expériences externes, il regarde. Lui présenter un objet. Vous savez bien, le premier transfert que fait un gosse, très intéressant, au point de vue du freudisme. Premier transfert, c'est que le gosse crie à cause du biberon. Je n'ai pas habituellement une école maternelle, mais quand même, hein, nous étions nombreux en famille, je savais bien ce que c'était qu'un gosse. Eh bien, quand un gosse appelle le biberon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas l'heure. Alors on agite quelque chose, une petite sonnette. Tiens. Pendant un instant, il ne crie plus. Vous voyez le transfert? Pendant un instant, il ne crie plus. Il est pris par autre chose. Ça va pas durer, ça va pas durer. Il va recommencer à crier. On va inventer autre chose. Et si la mère est très inventive, elle vend des tas d'objets. Et pendant un certain temps, le gosse ne crie plus. C'est extraordinaire. Hein, vous voyez, l'expérience externe. Tandis que le cri est relevé d'une expérience interne. Ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est faux, puisqu'il écoute. Mais l'expérience interne, qui vient de l'appétit naturel, de l'appétit naturel de prendre son biberon. C'est très fondamental. Mais au-delà de ça, il y a l'expérience externe. Vous voyez, si l'expérience interne était première, le gosse n'écouterait pas. La petite cloche qui sonne. Très très curieux, ça. Et vous voyez, là, je suis en face d'une expérience externe. On peut tous faire cette expérience-là. Si on a un petit gosse, on aurait vu un petit enfant qui vient. Là, on aurait fait ça. Vous auriez vu, hein? Parce qu'à la fin du cours, il aurait crié. Avant la fin. Alors, vous auriez agité quelque chose, une petite sonnette, très sensible au son. Puis d'autres, très sensibles à la vision, aux couleurs. Projeter une lumière, il regarde tout de suite. L'expérience externe, réfléchissez là-dessus, c'est très important, elle est fondamentale. C'est ça qui est notre vie. On est sensible au milieu et au toucher. Le toucher, c'est l'expérience externe la plus fondamentale. On a fait des expériences au Canada pour essayer d'isoler. Vous voyez, on ne peut pas isoler complètement. Mais on essaie. On essaie d'isoler. Est-ce qu'un être humain peut rester longtemps coupé de son milieu? Il n'est jamais totalement coupé, hein, parce qu'il respire. Et quand je respire, je suis en union, en communion avec mon milieu. On a essayé. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'on a vu que l'homme résiste moins longtemps que la femme. C'est assez curieux, ça. C'est très intéressant. L'homme résiste moins longtemps. Je n'ai plus le nombre d'heures. Ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une limite. Il y a une limite. Et on deviendrait fou. Celui qui est coupé de son milieu devient fou. Et ça, c'est vrai. On a besoin de toucher. Et la sécurité, l'angoisse, elle naît de ça. C'est pour ça que l'angoisse, c'est l'oubli de l'expérience externe. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. L'angoisse, c'est ça. C'est l'oubli de l'expérience externe. Et notre monde est un monde d'angoissé. Parce qu'on ne tient plus compte de l'expérience externe. Il faut rattraper cette expérience externe. Il faut marcher pieds nus. Alors à ce moment-là, on a contact. On met des semelles. Première séparation. C'est très très curieux de voir combien le toucher, qui est l'expérience du vivant, qui fait contact avec le monde extérieur, est essentielle à la vie. Si vous vous séparez, vous mourrez. Et l'angoisse, c'est comment un début de mort. Hein. Donc, réfléchissez bien et vous verrez. Si vous avez quelque chose pour remplacer cette expérience externe, vous me le direz. Mais je vous le démolirai. Je vous le dis d'avance, parce que je crois avoir fait la critique de toutes les possibilités. Parce que ça m'intéresse beaucoup de voir si vraiment l'expérience externe est le fondement de la philosophie. Pendant 15 ans, des psychanalystes freudiens m'ont demandé de dialoguer avec eux. Et ils sont venus en disant, votre philosophie est une philosophie qui repose sur l'expérience. Notre psychanalyse repose sur l'expérience. Donc on doit pouvoir s'entendre. Alors je ne peux pas refuser. Quand on demande un dialogue comme ça. J'ai vu que la psychanalyse ne repose pas sur l'expérience externe. C'est ce que j'ai essayé de leur montrer, qu'ils n'allaient pas assez loin. Ça repose sur l'expérience clinique. C'est pas la même chose. L'expérience humaine. Quand je vois quelqu'un, je dis bonjour. Quand je suis très pressé, je ne le regarde pas. Mais quand je veux lui dire bonjour, je le regarde. Et quelqu'un qui ne vous regarde jamais. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui ne me regardait pas. On est resté une heure à parler. Il m'a pas regardé. Ou de temps en temps un œil. Moi, je le regardais. Mais ne me regardez pas. Très désagréable. On n'a pas eu vrai contact. Il a beaucoup parlé. Je l'ai laissé parler. Je regardais. Il ne me regardait pas. On voit bien qu'il y a un contact qui ne se fait pas. Ou partir. timidité pour tout un tas de raisons. Comme ce n'était pas une expérience clinique, je n'ai pas cherché d'analyser. Mais il y aurait eu un médecin qui était là, il aurait tout de suite analysé. Oh, vous voyez, il ne regarde pas. Il a peur. Il transporte sa peur avec lui. L'expérience clinique n'est pas l'expérience humaine. L'expérience clinique, c'est une expérience en fonction de certaines circonstances. Normalement, quelqu'un qui n'est pas malade ne va pas voir un psychanalyste. Ce que je posais à mes freudiens, si Freud avait eu l'expérience d'un saint, qu'est-ce qu'il aurait dit? Malheureusement, il ne l'a jamais eu. Et Freud construit toute une philosophie à partir de son expérience clinique. Quelle expérience qu'il avait à Sainte-Anne, à Paris. C'est très beau ce qu'il a fait de respecter le malade. C'est pas suffisant. Il faut le sauver. Et respecter le malade, et vouloir respecter le malade en prenant uniquement son expérience, vous vous enfermez en lui. Il faut pouvoir aller plus loin. Voyez l'exemple très simple, vous allez tout de suite comprendre. Quand un gosse tombe auprès de son père et sa mère, que fait le père? Allez, il tend la main. Allez, tend la main. Le gosse est trop abîmé, il ne peut même plus tendre la main. Qu'est-ce que fait la mère? Elle le prend par en dessous. Deux expériences différentes. Tendre la main, c'est le psychanalyste. Prendre par en dessous, c'est le philosophe. Et il faut saisir ces choses-là. Parce que prendre par en dessous, c'est comprendre qu'on a affaire à un malade, à quelqu'un qui est infirme, il ne peut plus se lever. Et donc il faut descendre plus bas que lui. Et la mère fait ça instinctivement. Et le philosophe doit envelopper l'homme. Socrate disait que le métier de philosophe, c'était le métier de la sage-femme, l'accoucheuse. C'est très joli, hein? Prendre maternellement l'homme, descendre plus bas que lui, et ne pas seulement lui donner la main. C'est pas suffisant. Il faut saisir l'homme dans sa totalité. Et pour saisir l'homme dans sa totalité, je ne peux commencer que par l'expérience externe. Donc réfléchissez sur ce point. Alors, on me demande aussi intelligence et raison. Ça, c'est quelque chose de très important et de très difficile. Au fond, toute la philosophie est pour essayer de comprendre ce que c'est que l'intelligence. Et ce que c'est que la raison? Cette distinction, on la trouve dans saint Thomas, elle vient d'Aristote. Ce n'est pas saint Thomas qui l'a inventée. Elle vient d'Aristote. L'intelligence, pour Aristote, c'est le nous. Écrivez ça comme ça si vous voulez. Le nous. Et la raison, c'est logismenos. La raison, c'est ce qui résonne. Nous raisonnons et nous sommes intelligents. Il y a des gens qui raisonnent indéfiniment. Alors je compare ça au vieux moulin à café, vous savez. On tourne, puis on regarde, il n'y a plus de grains. Et on continue de tourner. Il y a des gens qui raisonnent indéfiniment. Pourquoi raisonnent-ils? Ils ne le savent plus. Ils raisonnent. Il n'y a plus de grains à café. L'intelligence, c'est le jugement. Le jugement, en français, c'est le juge qui... Vous voyez, c'est très curieux, hein? Le français est lié au tribunal. C'est le juge qui porte la sentence, le jugement, la décision dernière. Le grec, le jugement, krinein. Ça veut dire discerner. Ah, j'aime mieux ça. J'aime beaucoup le grec, vous savez. Discerner. Juger, c'est discerner. Pour porter une sentence, il faut discerner. Ce qui est important, c'est discerner. Discerner ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais. Un homme intelligent, c'est celui qui discerne tout de suite l'essentiel de l'accidentel. Un bon juge, c'est discerner l'essentiel de l'accidentel. Un bon avocat manifeste, veille l'essentiel. Il doit conduire le discernement essentiel accidentel. Et s'il plaide une cause perdue, il doit mettre le juge dans une impasse pour le mettre dans son panier. C'est ça qu'il doit faire. Et à ce moment-là, déviation. Il fait une déviation, le juge s'en est même pas aperçu. Déviation pour faire croire que ce qu'il va dire, c'est l'essentiel. L'apparence. C'est ça le jugement discerné. Donc, le jugement. L'intelligence, c'est saisir. Saisir l'essentiel. On capte, on saisit. Raisonner, je suis toujours dans la dualité. Je raisonne. Donc c'est très important de voir la différence entre intelligence et raison. À partir de Descartes, on a parlé de l'entendement. Et on ne distingue plus intelligence et raison. On confond. La grande confusion. C'est très curieux, ça. Vous voyez, pendant des siècles et des siècles, on a maintenu le nous et le logismos, le raisonnement. Puis à un moment donné, on a confondu. Alors ça revient toujours, hein. Ça revient toujours, parce que si on est intelligent, on va dépasser l'entendement de Descartes. On comprendra que Descartes, oui, très bien, très bien. C'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin. Alors on retrouvera l'intelligence qui s'affronte au réel. L'être intelligent, c'est celui qui dépasse les opinions, qui dépasse les idées et qui veut connaître le réel. C'est ça l'être intelligent. Ce qui est. Et il revient toujours à ce qui est. Donc l'intelligence est faite pour connaître ce qui est. Et c'est pour ça qu'on dira, l'intelligence est tout entière ordonnée à la réalité existante. La réalité existante, en dernier lieu, c'est la personne humaine. L'être intelligent, c'est celui qui saisit ce qu'est une personne humaine. Alors, différence entre vérité, évidence, certitude. Ça, je vais très vite là-dessus, mais c'est quand même important. La certitude, c'est subjectif. L'évidence, c'est objectif. La vérité, c'est la qualité d'une connaissance. L'évidence, c'est lorsque je suis en présence de quelque chose que j'atteins directement, sans intermédiaire. Tout de suite, c'est évident. Oui, quand vous dites c'est évident, c'est-à-dire que vous l'avez saisi tout de suite, quoi. Vous l'avez saisi tout de suite. Quand vous dites un crapaud, et quand vous dites c'est un crapaud, c'est évident, un crapaud. Je sais ce que c'est qu'un crapaud, je vois. Mais quand vous voyez une bête que vous n'avez jamais vue, vous dites, qu'est-ce que c'est? déclenchement. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je veux savoir ce que c'est. Et vous cherchez, vous revenez, et vous cherchez dans des tables, un lexique, une bibliothèque savante sur la description des animaux. Vous cherchez, tiens, c'est peut-être ça. Oui, quand vous retrouvez quelque chose que vous connaissez et vous le voyez dans la réalité, vous dites, oui, c'est ça, c'est évident. L'évidence, c'est quelque chose qui parle immédiatement à mon intelligence. Et que mon intelligence saisit immédiatement, sans intermédiaire. Et à partir de là, j'ai la certitude que je connais ça. Voilà, nous allons continuer cette petite enquête historique. C'est quand même très important. Je disais, Platon, philosophie de la libération. Quelle différence y a-t-il entre libération et liberté? Je ne dis pas Platon, philosophie de la liberté, mais philosophie de la libération. La libération, c'est ce par quoi je peux acquérir la liberté. La libération implique une action de seul. Moïse est le libérateur du peuple d'Israël. Il est le sauveur. Il libère le peuple d'Israël du joug du Pharaon, de l'esclavage du Pharaon. Quand quelqu'un est sous l'esclavage de quelqu'un, d'un tyran, il faut le libérer. Et l'action de libérer, c'est la libération. On a parlé de la libération de la France quand elle était sous le joug de l'ennemi. On parle d'une libération. Les pays qui sont sous un joug de tyrannie, il faut les libérer. On n'a pas le droit de les laisser sous le joug d'un tyran. Vous voyez cette opposition, hein, très très nette. L'action de libérer quelqu'un. Libération. Et on le libère pour lui rendre sa liberté. La liberté est plus fondamentale. Et la philosophie de Platon, quand je dis, c'est une philosophie de la libération, parce qu'il veut libérer l'homme de ce joug terrible qui est le sensible. Parce que l'homme est dans la caverne. On est dans la caverne. C'est ce passage très étonnant de Platon. Pour Heidegger, c'est un des passages les plus évocateurs de toute la philosophie de Platon. L'homme, c'est dans la République. Je ne sais plus quel livre ça en prend d'importance. On trouve facilement ça. L'homme est sous le joug du corps. Le corps, pour Platon, c'est comme un tombeau, une pierre tombale. Soma, la pierre tombale. Et l'homme, parce qu'il est dans la caverne, ne voit les choses que de l'extérieur. Il voit les apparences. Et il demeure dans les apparences. Il ne voit pas la réalité. Il faut qu'il sorte de la caverne pour découvrir la lumière. Parce que quand vous êtes dans la caverne, vous êtes dans les ténèbres. Et vous ne voyez que des ombres. L'ombre de la réalité. Il faut sortir de la caverne. Et la philosophie me fait sortir de la caverne. Je me libère du joug du corps, du joug du sensible, pour découvrir la lumière profonde que j'ai au plus intime de moi-même. Mon âme spirituelle a connu un état antérieur à l'état dans lequel je me trouve actuellement. Je n'étais pas lié à un corps. Et j'étais contemplatif. Et j'étais sous la lumière directe de Dieu. Parce que je n'ai pas été fidèle, je suis uni à un corps. parce que je n'ai pas été fidèle. C'est une punition d'être uni au corps. Et quand je prends conscience de cela, je fais tout pour me libérer. Et la philosophie est une philosophie de salut, de libération, du joug du corps, du joug du sensible, du joug des passions. Il faut me libérer et redécouvrir cette lumière intérieure. Vous voyez la réminiscence. Redécouvrir cette lumière intérieure. Le seul inconvénient, c'est que je n'ai aucune conscience de mon état antérieur être uni au corps, du moins moi. Je ne sais pas si vous, vous l'avez. Je me souviens une fois, c'était un chauffeur de taxi. J'étais seul avec lui. Je devais prendre le taxi parce que j'étais très pressé. Puis alors, dès qu'il voit un curé, tout de suite, il y a des révélations. Il me dit, ah, je suis chauffeur de taxi. Mais dans ma vie antérieure, j'étais grec et je jouais à Athènes sur le théâtre. Elle me dit, ah, très bien. Alors vous vous rappelez de la langue grecque? Ah non. Dommage. Parce que je me suis mis à lui dire quelques mots grecs pour lui voir s'il comprenait. Il ne comprenait pas. Il dit, c'est embêtant. Alors comment vous jouez? C'était le mime. Non, je jouais. J'ai joué vraiment. Mais, j'ai perdu la langue. Hein. La réminiscence n'est pas complète. Revenez très fort, vous reviendrez et vous redécouvrirez le grec. Il dit, j'ai essayé, ça n'est jamais venu. La réminiscence, l'état antérieur, est-ce que ce n'est pas purement imaginaire? Fonder toute sa philosophie sur la réminiscence. C'est pas commode. Hein? C'est peut-être très beau. C'est peut-être une nostalgie. Fonder sa philosophie sur une nostalgie. C'est pas vrai. C'est très intéressant de voir que la philosophie de Platon, c'est une philosophie de libération du corps. Aristote, disciple de Platon pendant 20 ans. Il est venu à l'école de Platon à 18 ans. Je crois que Platon l'a aimé beaucoup. Platon l'appelait le liseur, celui qui lit beaucoup, celui qui est tout le temps à chercher, le chercheur. Le jeune Aristote, je crois, très très vite. À opposer à la philosophie de Platon une philosophie de l'expérience. Il n'a jamais accepté la réminiscence. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a une unité substantielle dans l'homme. L'homme est temps. Quand je prends mon petit déjeuner le matin, quand j'ai un cours de philosophie après, quand je prie, quand je dialogue avec quelqu'un, quand j'aime, est-ce que c'est pas toujours la même personne? Substantiellement, est-ce que c'est pas la même personne? Il y a une unité substantielle en moi. Et ça a été, vous allez me dire, la grande intuition d'Aristote. Non, c'est pas une intuition, c'est une expérience interne qui repose sur l'expérience externe. Je ne peux progresser dans mon expérience interne que grâce aux expériences externes. Et mes sens, mon toucher, fait partie de ma personne. Vous voyez, c'est face à cette philosophie de la réminiscence qu'Aristote insiste tellement sur une philosophie de l'expérience. Et moi je dirais, face à l'hégélianisme, face à ces siècles de philosophie idéaliste, si nous voulons redécouvrir une philosophie saine, il faut revenir à l'expérience. Personnellement, j'en suis sûr. Aristote a rompu très très vite avec Platon, tout en restant à son école, parce qu'il avait découvert en Platon un génie. Platon est un grand génie, c'est un artiste prodigieux, l'artiste du logos, de la parole, l'artiste merveilleux. Chacun de ses dialogues, c'est une œuvre d'art. Mais ce n'est pas la vérité, c'est son expérience interne, c'est la beauté. Platon était pris de la beauté. Aristote, face à Platon, va essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme libre. L'homme libre, c'est dans sa politique qu'il en parle. L'homme libre, c'est l'opposé de l'esclave. L'esclave, c'est celui qui est dépendant d'un autre. Oh, il y avait tout un passage qui serait très intéressant à voir dans Aristote. La différence de l'homme libre et de l'esclave. Et Aristote distingue 200 esclaves. C'est des choses qui sont intéressantes à traiter aujourd'hui. Évidemment, pour nous, l'esclavage, c'est une nuance affective très grande, alors on n'aime pas très bien de regarder ces passages d'Aristote, alors que je crois que c'est très intéressant. Aristote ne parle pas du reste, il parle de l'esclave, doulos. L'homme, c'est intéressant qu'il dit l'homme libre, l'homme esclave. Et pour Aristote, il y a l'homme esclave par nature et l'homme esclave par violence. L'homme esclave par nature, c'est celui qui est incapable par lui-même de se gouverner. Incapable de se gouverner, incapable d'acquérir la prudence, la vertu de prudence, incapable. Il est beaucoup trop pris par les passions. Il y a des gens, il faut le constater, ça, voyez-vous, il y a des gens qui vivent au niveau des passions. Il voit une bouteille d'alcool, il se précipite dessus. Vous savez le syllogisme de l'ivrogne. Il est bon pour moi de ne pas prendre d'alcool. Voilà, grande majeure. Et j'ai dit oui. À mon médecin, j'ai dit toutes les promesses. Puis soudainement, oh, cette bouteille, j'en ai jamais vu comme ça. Extraordinaire. Je me précipite dessus. Oui, la passion. La passion fait tomber toutes les promesses. On n'est pas responsable, on est passionné. Saint Thomas dit en théologien que quand la passion est antérieure à l'acte, elle diminue la culpabilité de l'acte. C'est vrai, ça. Quand la passion est antérieure à l'acte, un être, il n'a pas été éduqué, que voulez-vous? Alors la passion a poussé. Il faut être éduqué pour que, dominer la passion et acquérir la vertu de prudence. Toute l'éducation est ordonnée à la vertu de prudence. Oui, on est devant un monde où l'éducation n'existe plus. Il n'y aura plus de vertu de prudence. D'où la quantité d'accidents. Puisqu'il paraît que les accidents ont augmenté de façon prodigieuse ces derniers temps. Et ça continuera, puisqu'il n'y a plus d'éducation. La vertu de prudence, ça met longtemps à guérir. Ça met très longtemps. L'art ne supprime pas les accidents. C'est la vertu de prudence. Alors, les passions, vous voyez, un être humain qui est passionné au point tel que son intelligence, sa raison prudentielle est complètement inhibée en dessous du niveau de la mer. Et il n'y a plus la passion qui pousse. Cet homme-là, il vaut mieux qu'il soit au service d'un homme prudent. Parce que par lui-même, il est incapable. Il vaut mieux qu'il soit au service d'un homme prudent. Ça, c'est l'esclave par nature. Et Aristote, c'est pour son bien. C'est pour qu'il puisse dépasser les passions. Aujourd'hui, on ne dira plus esclave, hein. On dira un autre mot. Il est sur la tutelle, oh, très très bien. C'est exactement la même chose. Parce que l'esclave par nature, quand l'homme passionné pouvait acquérir la prudence, le maître, s'il était bien, devait le libérer. L'esclavage par nature ne dure pas toute la vie. C'est pour un temps. C'est la tutelle. Tandis que l'esclavage par violence, Aristote le condamne. Parce qu'on met un être intelligent sous le contrôle d'un autre, peut-être beaucoup moins intelligent. Mais à cause de la violence, à cause de la force, celui qui est le plus fort l'emporte au combat. C'est pas celui qui est le plus intelligent. Alors il fait des esclaves par violence. Et les esclaves par violence, c'est injuste. On n'a pas le droit de mettre un être humain intelligent, capable de se gouverner lui-même, sous la tutelle d'un autre. On n'a pas le droit. C'est contraire à la nature. Vous voyez, là il y a une philosophie de la liberté au niveau politique, qui est quand même très belle. Alors, parce qu'Aristote dit qu'il y a des esclaves par nature, on a dit, Aristote a accepté l'esclavage. Mais pas du tout. L'esclavage, fruit de la guerre, fruit de la violence, il l'aura.